Notre attention est-elle en danger ?
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Bonjour à tous. Notre attention est-elle en danger? À force d'être sursollicitée, pouvons-nous craindre qu'elle ne tarisse? Est-elle une ressource en voie d'épuisement? Elle est en tous les cas un bien précieux qui attise les convoitises. Certains s'en sont confessés, comme Tristan Harris, un ancien collaborateur de chez Google, où il était chargé de l'éthique de la persuasion humaine. Un repenti, donc, dirons-nous, car depuis, il est devenu lanceur d'alerte. Et il le dit, derrière les applications addictives, il y a des centaines d'ingénieurs qui connaissent parfaitement la psychologie des utilisateurs et font tout pour qu'ils deviennent accros. Ils les qualifient de pirates de l'attention. C'est vrai que les nouvelles technologies ont envahi notre espace et notre temps de cerveau disponible, mais jusqu'où cette attention est-elle sollicitable? Ces questions étaient au cœur des reportages de Francine Delcozo, diffusés toute cette semaine dans Vacarme entre 13h et 13h30, et nous les remettons sur la table des échos jusqu'à 10h ce matin. Avec vous, Yves Citon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Paris, merci. Vous êtes professeur de littérature et médias à l'Université de Paris 8 et vous avez publié Au Seuil ce livre pour une écologie de l'attention. Ça date de 2014. Écologie de l'attention, pourquoi ce mot ?
Vous avez parlé tout à l'heure de pirate de l'attention. C'est une façon de représenter quelque chose qui s'appelle souvent de l'économie de l'attention ou des marchands d'attention. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle justement Attention Merchant, qui remonte jusqu'au début du 19e siècle pour montrer que dès ce moment-là, l'attention est quelque chose qui s'achète, qui se vend. Et donc, il y a une économie de l'attention dont on a beaucoup parlé depuis les années 70. Et moi, j'ai essayé de décaler un petit peu ça vers une écologie de l'attention. Je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure.
On va en parler en tout cas avec vous, Yves Citon. Avec vous aussi, Nader Perrou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex de Genève, vous. Vous êtes professeur médecin adjoint agrégé aux hôpitaux universitaires de Genève et responsable d'une unité qui prend en charge des patients adultes souffrant de troubles du déficit d'attention hyperactivité. Est-ce que ce trouble de l'attention, cette hyperactivité, c'est quelque chose de nouveau? Ça fait, j'ai l'impression, quelques années qu'on en parle, un peu plus peut-être maintenant, vous nous le direz, mais est-ce que c'est relativement récent?
Alors, c'est pas récent, c'est un trouble qu'on connaît depuis longtemps.
Longtemps combien?
Au moins depuis le 18e siècle. On a des définitions, des descriptions assez claires de personnes souffrant d'hyperactivité ou de déficit attentionnel. Au point de vue de la recherche, on s'en est intéressé à partir des années 50 et puis ça a explosé dans les années 80. Et plus récemment pour l'adulte, à partir des années 90, début des années 2000.
Alors c'est toujours la même question, est-ce que ça explose parce qu'on connaît mieux les troubles et que du coup on les diagnostique plus rapidement, ou est-ce parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui expliquent cette explosion?
Alors la prévalence du trouble dans les études qu'on a depuis les années 50 n'a pas augmenté, il y a toujours autant de personnes qui souffrent de ce trouble-là. Il est simplement mieux détecté et probablement mis plus facilement en exergue dans la société dans laquelle on évolue, hein, qui est très exigeante en termes de demandes attentionnelles, demandes cognitives. Et donc les personnes sont soit détectées plus rapidement ou souffrent plus rapidement en fait de leurs difficultés attentionnelles et donc vont plus vite consulter. Où on est aussi mieux formé en tant que psychiatre ou psychothérapeute pour détecter ces troubles-là. Donc on les met plus facilement en évidence.
Est-ce que nos ados sont plus susceptibles d'être touchés par un trouble déficit d'attention?
Alors ils sont plus à risque, dans le sens que les demandes qui sont actuellement, enfin qui sont celles actuelles de notre société, qui demandent beaucoup de travail cognitif, de faire des efforts intellectuels, de performer au niveau attentionnel, va mettre à mal les capacités attentionnelles de patients déjà fragiles ou de personnes déjà fragiles, et donc le trouble va se manifester probablement plus tôt. Et les adolescents sont particulièrement à risque, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en raison des nouvelles technologies, dont les smartphones, qui fragilisent considérablement les capacités attentionnelles des adolescents.
Ah, le smartphone, au cœur de la vie de nos ados. Justement, on va s'y rendre, on va donner la parole à un d'entre eux. Il s'appelle Oscar, il a 14 ans et Francine Delcozo l'a rencontré dans sa chambre et avec son smartphone.
Là, tu fermes les volets, Oscar, ça va être l'heure d'aller te coucher.
Oui, exactement.
Oscar, on est ici chez toi, dans ta chambre. Est-ce que tu as un portable près de toi?
Alors oui, j'ai un portable dans ma poche. J'ai pas beaucoup d'applications. Mes parents ne me laissent pas mettre d'applications comme des jeux.
T'en penses quoi, toi, de cette décision?
Je pense que je passerais beaucoup plus de temps si j'avais des jeux sur mon téléphone.
C'est vrai?
Oui.
Donc, pas de jeux parce que tes parents ne le veulent pas. Est-ce que parfois, tu essayes de contourner? Ça doit être facile, non? Peut-être que tu es plus fort qu'eux.
Alors, mes parents ne sont pas du tout du genre à se faire avoir parce que j'ai beau essayer d'en mettre un, ils m'ont mis un code, donc ça veut dire que je ne peux pas mettre de jeu moi-même.
Est-ce que ça t'ennuie?
D'un point de vue, oui. Déjà pour mettre justement l'application que je voulais mettre, Instagram. Parce que j'ai déjà demandé à mes parents, mais ils m'ont toujours dit « mais on verra, ouais, on verra ». Je pense que je l'aurai pas, mais ma foi, c'est comme ça, j'ai des parents sévères.
Tu penses que le téléphone, tu l'ouvres combien de fois par jour? Tu le sors de ta poche et tu le regardes. T'arrives à estimer ça?
Je pense que c'est beaucoup. Voir si j'ai un message, voir si... Même si je le pose, par exemple, chez moi, sur la table, puis que je vais faire quelque chose d'autre, je me dirai, ben tiens, est-ce que j'ai reçu un message? Mais tout le temps être intrigué à aller voir, je pense que je regarde mon téléphone comme ça 50 fois par jour. Même plus qu'une cinquantaine, je pense.
On est dimanche soir, Oscar. T'as reçu combien de messages ce week-end?
Alors, j'ai reçu...
Donc là, tu es sur WhatsApp.
Exactement. Donc depuis samedi, 1, 2... Donc après, avec les groupes, hein, c'est sûr que ça prend plus de place. 9, 10, 11, 12, 13... 36 messages, voilà.
Donc ça fait à peu près en 24 heures. En une journée, c'est 36 messages.
Brosser les dents.
Alors voilà, je pose mon téléphone.
Tu dois le laisser à la cuisine.
Exactement.
Depuis toujours, tu dois le laisser.
Depuis que j'ai un téléphone, oui.
C'est tes parents qui l'exigent?
Oui, c'est vrai, c'est mes parents qui l'exigent.
Est-ce que toi, tu as déjà rencontré des gens où tu as l'impression qu'ils sont de ton âge, par exemple, qui sont vraiment addicts, c'est-à-dire qui passent des heures sur leur téléphone?
J'ai beaucoup de connaissances, ouais, qui passent vraiment des temps. Et puis ça se voit justement le matin quand ils arrivent, parce qu'ils jouent la nuit vraiment. Mais ben, le premier jour d'école, justement de cette année, un ami à moi justement qui est arrivé déjà 10 minutes en retard, avec une tête mais de zombie quoi, vraiment. Au bout de 20 minutes de cours, il s'est endormi. Donc après je suis allé lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il dit, ah ben j'ai joué cette nuit. Et puis j'ai fait, ouais, ben voilà, c'est pour ça que t'es comme ça, quoi.
Bonne nuit, Oscar.
Bonne nuit.
Je vais poser évidemment la question tout d'abord au médecin Nader Perrou. Est-ce que les smartphones ont une influence néfaste sur l'attention des adolescents?
Je pense que dans la séquence qu'on a écoutée, c'est assez clair. Hein. On voit à quel point le smartphone attire l'attention, hein, au détriment d'autres tâches. Il évoque, hein, quand je pose le téléphone à côté et que je suis en train de travailler, j'ai envie d'y aller, je peux voir les messages, j'ai envie d'y répondre. Et donc, c'est extrêmement attractif pour l'attention. Alors, si on n'a pas de difficulté attentionnelle et puis qu'on a une très bonne, ce qu'on appelle attention divisée, c'est-à-dire que je peux faire quelque chose et revenir sur la tâche que j'étais en train de faire, ça pose pas de problème. Mais si j'ai un trouble déficit d'attention ou une difficulté attentionnelle de base, mais je vais très vite être attiré par mon smartphone et y rester. Donc, je vais avoir de la peine à revenir sur la tâche plus ennuyeuse qui n'est pas associée à une récompense immédiate.
Et qui a une très bonne attention divisée, pardonnez-moi, parce que c'est vrai que avoir un smartphone à côté de soi, ça donne envie, même aux gens qui n'ont pas de trouble de l'attention, d'y jeter un coup d'œil.
Bon, y a des gens qui arrivent relativement bien, hein, qui arrivent à juste ou à se contrôler et puis à rester focalisé sur la tâche qu'ils ont et se dire, bah, je regarde mon smartphone dans 10 ou 15 minutes. Donc avoir une sorte d'horloge interne pour pouvoir ne pas être trop distrait.
Est-ce que c'est une question de génération aussi? Parce qu'il me semble que des gens qui ont vécu un temps où les smartphones n'existaient pas ont plus de facilité parce qu'ils l'ont exercé, le fait d'être concentré sur une seule tâche.
Alors c'est juste que probablement il y a aussi un apprentissage qui ne se fait pas. C'est d'avoir un smartphone et plus tôt on va l'avoir, plus ça va être problématique pour des personnes qui sont fragiles en termes de capacité à switcher son attention d'une tâche à l'autre. L'autre phénomène qu'évoque la personne qu'on a écoutée, c'est le fait que ça décale le sommeil le soir, hein, parce que ça tient réveillé pour plusieurs raisons. Hein. On répond à des messages, on est stimulé émotionnellement par les messages que l'on reçoit, mais aussi simplement en raison de la lumière bleue. Hein, les smartphones ou les écrans génèrent de la lumière bleue qui empêche la sécrétion d'une hormone qui est la mélatonine et qui empêche l'endormissement. Et donc, ce que décrit très bien la personne qui a été interviewée, c'est que ben, quand on décale le sommeil le soir et qu'on n'a pas suffisamment d'heures de sommeil, ben, le lendemain, c'est compliqué. Et ça vient péjorer les difficultés, enfin l'attention, et on n'arrive pas à se concentrer. Donc, les smartphones, pour les adolescents, est extrêmement compliqué parce qu'ils ont de la peine à se discipliner. Hein. Donc, quelqu'un qui est fragile va être très vite en difficulté s'il utilise des smartphones et surtout s'il les utilise beaucoup.
Je pense qu'on peut dire aussi que nous autres adultes avons de la peine aussi parfois à nous discipliner par rapport aux smartphones. Il n'y a qu'à voir dans les transports publics aussi le nombre de personnes qui ont le nez collé dessus. Yves Citon, comment est-ce que vous entendez ce jeune Oscar parler de son téléphone? Est-ce qu'il y a quelque chose, dans, peut-être pas dans son comportement à lui, mais dans celui qu'il a observé auprès de ses amis, quelque chose qui vous inquiète?
Alors, qui m'intéresse beaucoup, qui m'inquiète, je suis pas aussi sûr que ça. À savoir, moi, ce qui me frappe dans à la fois ce que dit Oscar et ce que commente de façon très très pertinente Nader Perrou, en parlant de demandes qui s'accroissent, en parlant d'une société de plus en plus exigeante, maintenant en disant que la question, il s'agit de se discipliner, moi, j'ai envie de prendre pas mal de recul. Donc, moi, je m'occupe de littérature. À la base, j'ai beaucoup vécu au XVIIIe siècle, en lisant pas mal de choses du XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, on avait peur des romans. On interdisait les romans, on avait toute une série de discours qui expliquaient que les romans étaient très très dangereux pour la société, qu'on se plongeait dans des histoires, qu'on était absorbé par le roman. Enfin, il y avait tout un discours sur le roman qui le démonisait. Après, vous avez une collègue suisse, Mireille Berton, qui a fait un très très beau livre sur la malfaisance du cinéma vers 1910. Il y a toute une série de discours qui expliquent que voilà, tout le monde va devenir délinquant en allant au cinéma, que ça nous brouille le système nerveux, que ça nous désoriente, etc. Et donc moi, quand j'entends ce qu'on dit sur Oscar et ses smartphones et son espèce d'angoisse, ses parents qui lui empêchent de jouer des jeux vidéo, moi je ne peux pas ne pas entendre ces angoisses sur les romans, sur le cinéma, etc., qui sont peut-être fondées, à savoir que le XXe siècle a eu des choses absolument horribles et peut-être que le cinéma a contribué aux choses horribles qui sont passées au XXe siècle. Moi, je suis même plutôt convaincu de ça. N'empêche que on rigole un petit peu quand on voit les angoisses sur le roman. Alors moi, je rigole pas parce que c'est des choses très sérieuses, mais cette crise de l'attention, qui est un petit peu à l'arrière-fond et autour de laquelle on parle, il me semble qu'il est vraiment important de la cadrer de façon un petit peu différente. À savoir, pas de partir d'Oscar, pas de se dire, bah tiens, il y a un jeune, il y a un appareil technologique qui est un smartphone, et on va essayer de tout expliquer à partir de là, parce que là, de nouveau, c'est comme dire que le roman pourrit la société. Peut-être c'est vrai, mais c'est pas aussi évident. Moi, j'ai envie de parler, si je parle d'écologie de l'attention, c'est pour raisonner en termes de milieu. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est que la discipline? Qu'est-ce que c'est que le milieu scolaire à partir duquel, je crois que c'est dans votre deuxième émission, il me semble, vous avez posé le problème en classe. Qu'est-ce qu'on fait en classe pour intéresser les élèves? Et bien justement, si on raisonne en termes de milieu, on se dit que, alors, je dirais, il faut commencer peut-être par le plus large des milieux. Hein. On vit quand même dans un système, alors qu'on peut appeler capitaliste, capitaliste financier, néolibéral, appelez ça comme vous voulez, qui nous met tous en compétition plus ou moins à tout moment de la journée et de l'année, en tout cas qui souhaitent le faire. Il y a encore des fonctionnaires, il y a encore des planqués qui n'ont pas peur de perdre leur boulot chaque soir, mais on voit bien qu'à l'idéal, il s'agit de mettre une pression sur tout le monde pour qu'on soit aussi productif que possible, pour que le produit intérieur brut ait la plus grande croissance. Il ne faut pas s'étonner, si on met ça en place, que tout le monde soit, et ce sentiment d'accélération, de devoir répondre à plein de choses, de devoir rester connecté. Il me semble qu'il faut partir de ces conditions très très générales pour comprendre comment elles se diffuse petit à petit et comment elle nous stresse. Et moi, je ressens souvent, quand j'entends des adultes parler des enfants, le stress que les adultes eux-mêmes vivent avec leur téléphone, avec les mails auxquels ils doivent répondre, avec tout ceci, qu'ils projettent sur Oscar, parce que le fait qu'Oscar joue de temps en temps à un jeu vidéo, moi, je trouve que ça ne va pas forcément lui gâcher ni sa carrière professionnelle, ni sa vie.
Juste un point aussi, la discipline est importante, hein, parce que ce qu'on entend aussi dans le récit d'Oscar, c'est le fait que si ses parents étaient pas derrière, il jouerait plus. Et il aurait de la peine à fermer le smartphone le soir. Et c'est pas exclu que ça s'emballe. Et ça, c'est assez nouveau quand même avec les smartphones ou ces technologies qui sont designées pour attirer l'attention. Hein. Donc elles sont spécifiquement faites pour nous distraire et attirer notre attention. Alors à nouveau, là, je partage l'avis de Monsieur Citon. Citon, hein, c'est ça.
Monsieur Citon. Oui.
Voilà, Monsieur Citon. Je sois juste. Dans le sens qu'il y a peut-être tout le monde ne sera pas touché de la même façon. Mais pour des personnes qui sont fragiles, ça devient un problème. Hein. Et d'ailleurs, les interventions, lorsque l'on intervient sur les patients qui ont des difficultés attentionnelles et qu'on leur demande de mettre des règles très strictes sur l'utilisation des smartphones ou des écrans et autres, on réduit les difficultés attentionnelles. Donc il y a quand même un lien direct entre l'utilisation de ces outils et la péjoration ou l'amélioration de facultés attentionnelles.
Il y avait peut-être des fragilités avant qui n'étaient pas sollicitées par les romans, comme disait Yves Citon, peut-être, parce que les romans, j'y reviens, n'envoient pas de notifications. Les films au cinéma n'envoient pas de notifications. Ils ne rentrent pas dans la vie des gens par eux-mêmes. C'est les romans, on va les chercher, on va les acheter. Et puis si on est chez soi, ils n'entrent pas par la fenêtre pour nous dire « lisez-moi ».
Non, moi je voulais, enfin j'ai pris un petit parti pris pour éclairer différemment ce qu'on discutait, mais c'est absolument pas ni pour nier qu'il y ait des problèmes médicaux, et donc voilà, je suis pas du tout compétent pour nier ou pour parler simplement de ces problèmes médicaux qui concernent une petite partie, je crois, de la population, on l'a dit tout à l'heure, qui est pas forcément en train d'exploser, cette partie qui a des besoins de traitement médical de ceci. On en parle beaucoup plus, ce qui explose c'est le discours là-dessus, et moi j'ai surtout pas envie de dire qu'il y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'était le premier moment dire, regardons les romans pour mettre en parallèle ce qu'on dit aujourd'hui sur les smartphones. Un smartphone, c'est très très différent d'un livre. Là, je suis absolument d'accord avec vous. On pourrait dire que les romans aussi, les films aussi, ont toujours cherché à attirer l'attention. Qu'est-ce que c'est que la vieille rhétorique de Quintilien ou d'Aristote? Bah, c'est justement comment attirer la bienveillance, l'attention d'un auditoire. Donc, de chercher l'attention, c'est pas nouveau en soi. On a des moyens, des technologies absolument plus puissantes pour faire ceci, et c'est cette puissance inédite qu'on commence à peine à comprendre, qu'on comprend encore très mal, voire pas du tout. Et là, il y a effectivement quelque chose de tout à fait inquiétant. Là, je suis absolument d'accord avec vous.
Et attirer l'attention, c'est ce qu'on fait aussi en radio, en sollicitant nos auditeurs et en leur demandant de nous écouter dans les échos de vacarme jusqu'à 10h. Est-ce que nos adolescents sont peut-être plus capables que nous autres adultes d'hyper-attention ou de capacité à faire plusieurs choses en même temps? Nader Perrou.
Alors, je pense pas que ça ait changé drastiquement depuis des siècles. Il y a des personnes qui sont très capables de le faire, d'autres pas. La seule peut-être différence, de nouveau, si on parle et on reste sur la thématique des smartphones ou des jeux vidéo, c'est que on va plus facilement mettre en exergue des phénomènes d'hyperfocalisation, c'est-à-dire la capacité à rester très très longtemps concentré et très concentré sur une seule tâche. Mais ça existait déjà aussi par le passé avec des livres. Hein. Les patients qui souffraient, alors je parle de nouveau de patients, mais qui souffraient de troubles déficit d'attention ou d'hyperactivité, les parents pouvaient se plaindre que leur enfant pouvait passer des heures à lire un livre qui n'était pas pertinent pour l'école, au détriment de tâches qu'il devait faire, comme apprendre l'allemand, apprendre l'anglais ou autre. Donc les phénomènes d'hyperfocalisation sont anciens et sont pas nouveaux avec l'émergence des nouvelles technologies.
Mais qu'est-ce qu'on sait de la construction du cerveau qui est importante à l'adolescence et qu'est-ce qu'on sait de la différence entre un cerveau qui se construit en 2019 ou tel qu'il se construisait il y a 20 ans? Aujourd'hui, la génération des adolescents, ce sont des jeunes qui sont nés avec le téléphone dans la main, hein, les digital natives comme on les appelle. Est-ce que ça change les connexions neuronales du cerveau à ce moment-là important de la construction?
Alors je pense qu'on peut pas répondre à cette question pour plusieurs raisons. Les technologies d'investigation des réseaux neuronaux ou d'imagerie cérébrale ont tellement changé durant ces 20 dernières années que d'avoir des comparaisons avec des patients qui ont été analysés il y a 30-40 ans en arrière avec ce qui se passe maintenant dans le cerveau avec les nouvelles technologies, je pense que c'est impossible de faire la comparaison. Je sais pas, donc je peux pas vous répondre s'il y a une influence ou pas directe des smartphones ou des autres technologies sur le développement cérébral.
Yves Citon, est-ce que...
Là, si je peux dire... Oui, c'est... moi je renverrai à un livre qu'on a publié en fait à Grenoble, presse universitaire de Grenoble, qui s'appelle « Lire et penser en milieu numérique », qui est justement sur des questions d'attention et des techno-jeunesse. C'est un livre de Catherine Hales, H-A-Y-L-E-S, qui est une professeure aussi de littérature à Duke University, et qui, elle, essaye... Alors, elle a son expérience aussi d'enseignante, à savoir qu'elle dit « bah tiens, c'est plus difficile aujourd'hui de faire lire à des étudiants des romans de 500 pages que peut-être ça pouvait l'être quand j'ai commencé ma carrière, elle doit avoir maintenant 70 ans, donc elle a cette espèce d'intuition, mais qui souvent peut être fausse, mais elle a vraiment parcouru la littérature, et en particulier, elle a repris les thèses d'un des livres célèbres parus sur ces questions, qui s'appelle Est-ce que, alors qui a été traduit en français par Est-ce que Internet nous rend bête, ou quelque chose comme ça, c'est la traduction française un peu simple.
C'est un peu la question qu'on se pose.
C'était The Shallows. Voilà, hein, c'était Carr, je ne sais plus quel est son prénom maintenant, Carr, C-A-2-R. Et en anglais, c'est intéressant parce que ça s'appelait justement The Shallows, qui veut dire c'est le contraire du profond. Et Catherine Hales développe une pensée qui nous dit, bah, y a deux types, enfin, il y a plusieurs types d'attention, mais on peut les résumer en deux polarités. L'attention profonde, qui est justement l'hyperfocalisation dont on parlait tout à l'heure, et puis ce qu'elle appelle, elle, hyper-attention. Alors, c'est un petit peu troublant parce que c'est justement pas l'hyperfocalisation, mais c'est le contraire, c'est le fait d'être attentif un peu à plein de choses en même temps. Et elle construit toute une réflexion pour répondre à Carr, pas pour montrer qu'il a tort ou que ses données qu'il va chercher chez les neurosciences sont fausses, mais pour dire, regardons les mêmes articles des neurosciences, oui, l'attention profonde peut-être est menacée, ça c'est une vraie menace, mais il y a quelque chose d'autre qu'on fait, on compense en faisant autre chose, qui est, en gros, de regarder les figures qu'on est censé regarder, mais de garder une sensibilité au fond. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et là, il me semble que, alors de nouveau, si je prends du recul, il y a quelque chose qui, du point de vue écologique, est vraiment important, qui est de se dire, notre attention, on conçoit l'attention comme une attention concentrée sur des figures, sur des choses qu'on isole du fond, qu'on extrait du fond. Typiquement, vous lisez votre livre, vous faites pas attention au bruit de fond. Ou à d'autres choses qui pourraient se passer. Qu'est-ce que ça pourrait être que l'écologie, c'est de se dire que notre modernité, en particulier la modernité industrielle, qui a explosé à partir du 19e siècle, elle était hyper focalisée sur, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les chiffres de croissance, et qu'on voit pas qu'on est en train de saloper le fond qui sont nos paysages, notre nature derrière, parce qu'on regarde que le chiffre de croissance. Et de se dire que on pourrait voir se développer, alors oui, peut-être une perte de focalisation sur ces figures, mais une sorte de sentiment d'attention, mais qui est justement pas une attention focalisée au fond comme telle, peut-être que c'est pas une catastrophe et que la catastrophe c'était peut-être justement cette discipline dont je rappelle qu'elle commence, enfin qu'elle se met vraiment en place au 19e siècle, et il y a un très beau livre de Jonathan Crary qui nous explique que le grand moment de discours de crise, de panique sur l'attention, bien avant aujourd'hui, c'est la fin du 19e siècle, c'est 1880, et qu'est-ce que c'est que 1880? C'est le moment où la chaîne de montage a besoin que les ouvriers concentrent leur attention sur une seule chose, qu'ils soient très disciplinés et hyper focalisés sur la vis qu'ils ont à tourner, que les publicitaires, comme Tristan Harris le dénonce aujourd'hui, ont besoin de faire de la réclame pour vendre tous ces trucs qu'on va produire sur les chaînes de montage. C'est le moment où de nouveaux médias se mettent en place, comme le cinéma. C'est le moment où la psychologie expérimentale commence à comprendre à partir de quelle fréquence on entend des sons. Et c'est ces quatre choses-là qui créent une crise de l'attention qui est permanente depuis ce moment-là, mais quand même en lien avec le capitalisme, avec l'industrialisation et la modernité.
De l'intérêt des uns et des autres de capter l'attention. Yves Citon, Nader Perrou, vous êtes nos invités dans les Échos de Vacarme. On va parler des troubles dans quelques instants, ce sera juste après Majo sur la première.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Les dark patterns, c'est justement essayer de piéger l'utilisateur, de pirater l'attention des utilisateurs en leur disant, voilà, venez, c'est un petit peu comme... Ça se fait dans les supermarchés où on met des grosses pancartes jaunes et rouges, promotion, solde, action.
Le ventre à vide, je mange. J'engloutis mes colères, la tête pleine à l'envie. Mon amour, je le cache. Les secrets, je vous range au fond de mon grenier. Il dessine dans rester, j'installe de la lumière.
va parler trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est comme ça qu'on doit appeler ce trouble maintenant, Nader Perrou, TDAH.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est avec ou sans hyperactivité.
Avec ou sans hyperactivité.
Et nous allons pour ça aller dans le cabinet d'une psychologue. Elle s'appelle Valérie Milesi-Sterck. Elle est à Lausanne et elle propose à sa patiente ce matin-là des séances de neurofeedback. C'est pour muscler le cerveau.
Ça va? Comme ça? C'est tout bon?
Oui.
Alors, on va lancer l'entraînement. Donc, on va prendre une série comme récompense. Donc, notre carotte, c'est la série. Quand la série tourne, ça veut dire que tout est bien. Et quand ça s'arrête, c'est que le cerveau, il doit trouver une solution pour fonctionner au bon rythme. Donc, je vérifie aussi en parallèle que mon électrode soit bien posée. Et c'est tout bon. Et puis, pour le choix de la vidéo, on a pris une vidéo en anglais parce qu'elle est très douée dans les langues et qu'on a besoin d'une tâche qui l'engage pour qu'on puisse être en contexte d'apprentissage.
Vous voyez le stress qui monte, l'attention. On mesure vraiment l'attention?
Alors, l'attention, il n'a pas de mesure électroencéphalographique qui est arrêtée dans le temps. C'est tellement multifactoriel. Un cerveau qui se ralentit, ce qu'on va voir typiquement, c'est effectivement le cerveau qui commence à produire des très basses fréquences. Donc, on va lui réapprendre, lui redire, voilà, maintenant, là, mon coco, j'aimerais que tu sois plus haut. Et puis, on va le récompenser là-dessus. Puis notre cerveau, il n'aime pas les interruptions. Donc, c'est pas seulement la motivation de continuer la suite de notre série préférée, mais c'est aussi le fait que notre cerveau, il aime savoir ce qui va venir après. Il aime prédire. Donc, il va trouver un moyen de s'adapter. Et on joue là-dessus. On apprend à s'adapter. On fait vraiment de l'exercice. Comme on ferait de la musculation pour aller se renforcer musculairement, ici, on va essayer de muscler le cerveau dans la capacité à réguler en fait sa vitesse de fonctionnement. Comment c'était cet entraînement?
C'était difficile.
C'était difficile.
Mmh. Oui.
Est-ce que le neurofeedback est un complément ou une alternative à la médication? Est-ce que vous prenez, vous, de la Ritaline en plus du neurofeedback?
Oui, j'en prends depuis l'âge de 6 ans.
Et vous avez aujourd'hui
20. Ça ne me plaît pas tellement de prendre ce médicament, mais ça m'aide quand même beaucoup pour les devoirs. Par contre, ce n'est pas parce qu'on prend ce médicament que nos notes vont augmenter. Enfin, on va avoir des bons résultats, il faut bosser.
On pourrait se dire qu'avec la Ritaline, on peut faire des envieux. Si je prends de la Ritaline, je vais mieux réussir mes examens.
Ça, c'est ce que les personnes croient. Je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires qui en prennent et qui se dopent de ça pour réussir.
Et qui n'ont pas de troubles de l'attention.
Ouais, voilà, mais ces gens-là ne comprennent pas que pour nous, c'est une béquille et puis c'est pas drôle. Enfin, nous, on veut justement pas l'apprendre et que...
C'est trop de stress, ça, ce qui se passe là pour vous?
Oui. Oui, clairement.
Valérie vous a pris la main pour qu'on continue à se parler, ça va mieux?
Oui. Oui, mais en fait, c'est pas facile à en parler parce que j'en parle jamais, du coup... Moi, je sais que je serai tout le temps comme ça et j'ai encore un bout de chemin à faire.
Docteur Nader Perrou, on a entendu cette patiente au micro de Francine Delcozo et puis la fragilité qu'elle a avec son attention. On disait, vous le disiez en début d'émission, il n'y a pas forcément une explosion de ces TDAH, troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Quels sont les chiffres des patients atteints de ce trouble?
Alors, dans l'enfance, ça touche à peu près 5 à 6% des enfants. Et puis, chez les adultes, probablement autour des 4% en population générale.
Ça veut dire qu'on en guérit, une partie on guérit?
Alors une partie, on verront leurs troubles disparaître. Ou en tout cas, auront appris à mettre en place des stratégies adaptatives pour que les difficultés attentionnelles ou d'hyperactivité et ou d'impulsivité ne se manifestent plus dans la vie quotidienne. Et donc c'est supportable. Et donc le trouble, en fait, ne peut plus être présent.
Et donc, ces chiffres sont stables, bon an, mal an, depuis plusieurs décennies?
Oui, c'est stable depuis très très longtemps, en tout cas depuis les premières études épidémiologiques que l'on ait sur le sujet. Donc des dizaines et des dizaines d'années. C'est stable aussi entre les pays. Hein. C'est, on a souvent l'impression que c'est un trouble qui est restreint aux pays très développés, ou en Europe ou aux États-Unis. C'est pas le cas. Hein. Si on fait des études en Afrique ou si on fait des études en Asie ou ailleurs, on verra les mêmes prévalences en population générale.
Donc pour vous, la tension n'est pas forcément en crise?
C'est ce que j'avais dit en début d'émission. Hein. Il n'y a pas une explosion du trouble. Hein. Probablement que les personnes qui ont vraiment un trouble psychiatrique, un trouble déficit d'attention et d'hyperactivité, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et la prévalence n'a pas changé.
Se concentrer, Yves Citon, est-ce que c'est une valeur cardinale?
Alors j'aimerais juste rebondir là-dessus, parce que là je suis vraiment très intéressé par ce que dit le docteur Perroux. Ce chiffre de 5%, je l'avais entendu aussi, et j'ai envie de le mettre en rapport avec quelque chose d'autre, où là on peut dire qu'il y a une explosion, donc on voit qu'il n'y a pas une explosion de troubles neuro-cérébraux ou quelque chose. En revanche, il y a un livre très intéressant d'un journaliste du New York Times qui s'appelle Alan Schwartz, qui s'appelle ADHD Nation, c'est TDAH Nation, sur les États-Unis, trois personnes, dont la personne qui s'appelle Keith Connors, je crois, qui est un de ceux qui ont mis en place les tests de diagnostic pour savoir si votre enfant est un trouble attentionnel. Et ben il faut essayer de comprendre. On fait un diagnostic, on lui pose des questions et ensuite on dit il est dans la catégorie ou pas dans la catégorie. Et donc toute cette enquête qui est très compliquée sur toute une série d'années montre que dans certains États des États Unis. Alors j'imagine que, de nouveau, comme le disait le docteur Perroux tout à l'heure, il y a 5% de gens qui ont effectivement des troubles, qui devraient effectivement être traités en prenant quelque chose comme de la Ritaline, mais on a des taux de prescription dans les écoles de 30%. Et s'il y a une explosion, c'est les 25% de plus de gens qui ne devraient pas être diagnostiqués comme ayant ce trouble médical, auxquels on donne des questionnaires très très vite faits, des diagnostics dont celui qui les a créés maintenant fait toute une série de discours pour dire qu'on les utilise vraiment de façon très très dangereuse. Et c'est ces 25% de population d'adolescents qui sont sous Ritaline, forcément qui amènent de gros profits aux vendeurs de Ritaline, forcément ces gros profits... Ces gros vendeurs, ils ont contribué à la recherche médicale qui a démontré ou pas démontré un certain nombre de choses. Et ce livre, ADHD Nation, montre que oui, il y a effectivement, comme le dit très bien Monsieur Perroux, des problèmes, mais qu'on a besoin de les traiter, y compris avec de la Ritaline. Et qu'en même temps, il y a une explosion qui est plutôt dans le discours sur la crise attentionnelle que dans les réalités. Et que ce discours sur la crise attentionnelle et ses traitements ont sans doute d'autres causes que simplement neurologiques.
On va dire tout. Juste, je partage entièrement cet avis. Hein. Il y a eu vraiment des déviances, particulièrement aux États-Unis, avec des surdiagnostics de troubles psychiatriques, mais pas uniquement de troubles déficit d'attention et d'hyperactivité chez l'enfant. Hein. Il y a eu aussi les mêmes déviances sur des troubles bipolaires précoces chez les enfants avec des traitements où on donne des traitements médicamenteux, et ça, c'est un désastre. On a moins été touché en Europe par rapport à ce genre de phénomène. Et ensuite, juste un autre point, 30 secondes, il n'y a pas que les traitements médicamenteux pour le trouble déficit d'attention et d'hyperactivité, surtout chez l'enfant, il y a aussi beaucoup de psychoéducation des parents, d'aménagement de l'environnement dans lequel évolue l'enfant, qui peuvent être suffisants. Hein. Donc on stigmatise beaucoup la Ritaline, on pointe dessus, mais ce n'est pas le seul traitement pour les enfants.
Mais ça veut dire aussi qu'on voit des troubles là où il n'y en a pas, où on taxe de troubles un comportement qui finalement est peut-être tout à fait normal. Est-ce qu'on est plus exigeant par rapport à la norme, Nader Perroux?
C'est-à-dire qu'on va surtout avoir alors si on parle des enfants par exemple, on va surtout avoir des parents qui vont se plaindre des difficultés scolaires de leur enfant et autres. Et là, je rejoins Monsieur Citon, c'est-à-dire que si on tombe sur un psychiatre ou un médecin qui fait très vite des questionnaires sans s'attarder à la clinique, aux difficultés de l'enfant et qui très vite propose un traitement comme la Ritaline, c'est faux. C'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Ça reste un trouble, ça prend du temps à le diagnostiquer. Il faut mettre en place, avant de proposer un traitement médicamenteux, des stratégies environnementales pour essayer de voir si on peut se passer du traitement médicamenteux. Donc c'est surtout la pression de l'entourage qui chez l'enfant va amener, parce qu'un médecin fait mal son travail ou autre, à prescrire très rapidement de la Ritaline chez les enfants qui n'en auraient pas besoin.
Et citons
Oui, ben justement, si au début vous m'avez posé la question sur l'écologie de l'attention, pourquoi je parlais d'écologie de l'attention, c'était pour justement dire que derrière Oscar et son téléphone, derrière cette jeune femme de 20 ans qui doit prendre de la Ritaline, j'imagine pour de très bonnes raisons, parce qu'on voit que aussi elle fait d'autres formes de traitement et qu'elle a l'air tout à fait bien prise en main et que c'est merveilleux qu'on puisse aider les gens de cette façon-là. Au-delà de ceci, il y a des réalités sociales, des réalités de milieu, et en particulier, il y a ce qui se passe avec les écoles. Si on essaye de regarder dans ces zones des États-Unis où on a 30% de Ritaline, si on regarde le degré de sous-financement et de misère dans les écoles, le nombre d'étudiants par classe, etc., etc., on voit très bien que ce sont des problèmes en grande partie, pas seulement, mais en grande partie sociaux et politiques, des problèmes de milieu qui génèrent des troubles qu'ensuite on individualise en disant que cet enfant a des soucis et on va lui donner de la Ritaline. Donc là, quand je parlais tout à l'heure de discipline, quand je parlais d'usine, quand je remontais au 19e siècle, les demandes ou la société plus exigeante dont parlait tout à l'heure le docteur Perroux, il me semble que c'est aussi le fait que nos modes de production font que on est tous dans des sortes d'usines cognitives. La plupart d'entre nous, on fournit des services, on fournit des connaissances, on fournit des informations, on peut appeler ça comme on veut, qu'on est en contact toujours les uns avec les autres, qu'on doit répondre à des demandes constamment, et que c'est ces transformations de modes de production qui mettent de nouvelles attentes, de nouvelles formes de disciplines nécessaires pour produire, et qu'on est un petit peu pris là au milieu. Avec, je trouvais une dernière chose, ce moment très beau dans votre émission, où la personne qui a de la peine à surmonter ses émotions, et bien il y a quelqu'un à côté qui lui prend la main, et là on voit justement que ben, prendre la main, avoir quelqu'un à côté de vous, que ce quelqu'un à côté de vous vous prenne la main, ça aide. On a vu qu'elle continue à parler par la suite, et peut-être que ça nous dit quelque chose aussi sur le milieu scolaire. Comment est-ce qu'on conçoit l'école? Comment est-ce qu'on stresse les gens avec des tests standardisés? Si on vous dit pas que vous êtes TDAH, et ben on vous donne pas les bonnes notes pour aller à Harvard, et ça veut dire que votre vie est pourrie. Donc il y a tout ce contexte qui fait que on va parler de crise d'attention et on va dire que c'est une affaire individuelle, alors qu'il y a bien d'autres choses derrière.
Du coup, et d'un mot, la Ritaline chez les universitaires, c'est une réalité, c'est une légende urbaine. Nader Perrouge.
Alors, c'est pas une légende urbaine. Il y a des universitaires qui vont utiliser la Ritaline pour
sans avoir de diagnostic de TDAH,
donc qui vont s'auto-médiquer en quelque sorte. Alors, ou prendre ça sous forme de psychostimulant.
C'est dangereux.
Alors, c'est pas anodin, hein, parce que ça reste un traitement qui va avoir un impact fort au niveau du fonctionnement cérébral. Donc, si moi je le prends, par exemple, pour ne pas dormir la nuit parce que j'ai des examens à faire le lendemain, bah, au bout d'un moment, je vais être fatigué puis je vais faire un burn-out. Mmh. Ça peut générer de l'anxiété, ça a un impact cardiovasculaire non négligeable. Donc, il faut faire attention, hein. Et les universitaires prennent pas que ça comme substance, hein. Ils prennent beaucoup de substances pour pouvoir réguler, parce que de nouveau, on stigmatise la Ritaline, et je veux pas qu'on stigmatise la Ritaline parce qu'elle est très efficace pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais les universitaires prennent du cannabis, de l'alcool, des clopes. Enfin, ils ont plein de mécanismes autres aussi, en dehors de la Ritaline, qui restent minoritaires, hein, dans les autres drogues que les universitaires prennent pour pouvoir se concentrer. Ah.
Peut-être pas tous les universitaires, et peut-être que certains pratiquent aussi la méditation de pleine conscience, et on va y venir à cette méditation de pleine conscience avec une méthode qui s'appelle calme et attentif comme une grenouille. On va entendre au locle Joanne Fèvre qui anime cet atelier de pleine conscience avec des enfants, puis on entendra aussi dans cet extrait de reportage, Peggy Carlier, elle est directrice et formatrice responsable de l'Academy for Mindful Teaching, l'Académie pour l'enseignement de la pleine conscience en France. C'est l'extrait de reportage de Francine Delcozo.
On a tous comme ça un marron dans la main, mais ces marrons, ils sont vivants, ils sont tous très différents. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser juste une minute comme ça pour bien l'observer, et puis ensuite, on va tous remettre notre marron là, dans le petit panier. Et à la fin de la séance, on va essayer de retrouver le sien. Ok ?
Quoi ?
Alors vous pouvez regarder, prenez un petit moment en silence pour observer. Qu'est-ce qui pourra vous permettre de le reconnaître ? Pourquoi il est différent des autres ? Je vous laisse regarder en silence un petit coup. Vous n'avez pas besoin de me dire. Mais c'est surtout important pour vous, pour l'instant. On va faire une petite méditation assise. Du coup, je vous laisse bien vous asseoir, de vous mettre avec le dos bien droit, de trouver une posture sur laquelle vous êtes confortable.
Peggy Carlier, vous venez régulièrement en France, mais vous habitez aux Pays-Bas.
Et c'est là que la méthode est enseignée depuis 12 ans dans les écoles. Quel recul maintenant est-ce qu'on a de l'enseignement de cette méthode ?
Aux Pays-Bas, il y a des écoles que l'on appelle « mindful school », où tous les enfants de tout âge et de toutes les classes pratiquent les exercices de la grenouille. Et nous voyons que ces enfants savent mieux se concentrer. Ils sont plus bienveillants les uns les autres et les protocoles anti-harcèlement sont moins nécessaires.
Ça signifie qu'il y a moins de harcèlement entre les enfants ?
Tout à fait. Entre eux, il y a moins d'harcèlement. Et ça se voit, par exemple, on voit finalement que les résultats, donc leurs notes, sont meilleurs.
Qu'est-ce que cette pratique aiguise en particulier, de votre point de vue ?
En faisant les exercices, on aiguise l'attention. C'est simplement comme ça. La méthode aide donc à faire des choix ou diriger son attention. Et donc, il découvre que ce que c'est que manger une fraise quand on mange une fraise et ce que c'est qu'écouter une histoire quand on écoute une histoire. Ça, c'est la force de l'attention.
Est-ce qu'on va retrouver son marron ? Un petit doute, t'as eu un petit doute avec le dessin ?
Oui.
Comment est-ce que vous l'avez reconnu alors, le vôtre ? Qu'est-ce que vous étiez dit ?
Déjà ici, quand on passe l'ongle, il y a un petit truc un peu plus... C'est une espèce de ligne.
Des petites nervures comme ça.
Un peu plus clair.
Ok.
Et puis quand on passe le doigt, c'est un peu râpeux presque.
Ok.
Attends, c'est possible qu'on ait changé parce qu'on se ressemble beaucoup.
Eh, il se ressemble pas mal, hein ? Vous avez retrouvé votre petit indice que vous vous étiez donné ?
Oui, ça.
Parce que ça faisait un petit coup, hein, qu'on avait déplacé notre attention complètement ailleurs sur plein de choses différentes.
Moi, ça faisait un cœur de sourd.
Magnifique, ben, vous pouvez l'emporter avec vous, ce petit marron.
La méditation de pleine conscience, Nader Perrou, c'est une mode ou c'est un outil salutaire ?
Les deux. C'est à la fois un outil, enfin utile probablement, en tout cas dans les études le montrent, pour les personnes qui souffrent d'un trouble déficit d'attention d'hyperactivité, probablement aussi en population générale pour réguler son stress et avoir un meilleur contrôle de soi. La technique consiste surtout à porter attention à son attention, hein, si on parle du trouble déficit d'attention et d'hyperactivité, c'est d'être plus observateur de soi, être capable de détecter quand mon attention part, donc par le biais d'entraînement sur focaliser son attention, là on l'a vu sur des marrons, mais ça peut être sur une mandarine, sur un raisin et autres. Donc c'est un entraînement qui marche que si on le pratique quotidiennement, hein, sinon ça s'estompe très rapidement.
Et Yves Citon, j'aimerais vous entendre sur une notion dont vous parlez dans votre livre pour une écologie de l'attention, c'est cet ordre du troisième oiseau dont vous parlez en citant son nom en anglais, hein, the third bird. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, c'est des gens qui se retrouvent, par exemple, dans des musées, mais ça peut être dans un quartier, qui se reconnaissent à travers un signe de reconnaissance. Voilà, ils portent une petite couleur et qui font des pratiques attentionnelles, une sorte de pharmacie attentionnelle, en se disant qu'il y a, par exemple, dans un musée, des œuvres au fond d'une salle peu connue qui manquent d'attention. Voilà, qui en manquent d'attention, comme nous, on est tous accros à nos téléphones ou à l'attention des autres, et donc qui vont passer une heure, deux heures, trois heures, deux jours, à regarder ensemble, à donner très généreusement de l'attention à cette œuvre-là. Et donc l'idée, c'est que il y a des pratiques attentionnelles, dont le mindfulness ici est une des versions, et qu'on peut penser notre vie en termes d'intensification, en termes de pratiques attentionnelles. Alors il y a plein d'autres choses derrière l'ordre du troisième oiseau, mais c'est ceci. Moi, j'aimerais juste prendre un pas de recul face à ce qu'on a entendu là depuis le début. Où il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas remis en question, et moi j'aimerais juste le faire, un peu comme Mouche du Coche, c'est le fait que ça soit bien d'être attentif.
Est-ce que c'est une valeur cardinale ?
Évident, ça fait, c'est bien. Ben, voilà, moi il me semble socialement, hein, c'est pas ni vous ni moi, ni quoi que ce soit, mais que socialement, on a une sorte de manichéisme qui ferait que c'est bien d'être attentif et c'est mal, c'est pas seulement mauvais ou dangereux, mais c'est mal d'être distrait. Et moi j'aimerais juste faire un petit éloge de la distraction, à savoir qu'est-ce que ça veut dire être distrait ? Hein, chacun réfléchit et puis il fait sa petite définition. Moi, il me semble qu'on ne peut pas définir la distraction sans parler d'autorité. À savoir, être distrait, ce n'est pas ne pas être attentif. C'est très difficile de ne pas être attentif. Justement, il faut des méditations, mais de plusieurs décennies, pour réussir à ne pas être attentif. On est toujours attentif à quelque chose. On dit que les gens sont distraits quand ils sont attentifs à autre chose que ce que l'autorité veut qu'ils lui donnent leur attention. Et typiquement dans une salle de classe, l'enfant distrait, c'est pas l'enfant qui pense à rien, c'est l'enfant qui écoute pas le professeur qui est en train de faire son discours. Alors il y a de bonnes raisons pour qu'on écoute les professeurs, mais de toujours se demander qu'est-ce que c'est l'autorité qui définit ce qui est la bonne attention, être attentif à ceci, et la distraction, c'est mauvais d'être attentif à cela, on peut assez facilement se rendre compte que dans certains régimes politiques, par exemple, ça serait peut-être mieux d'être distrait, ou dans certaines, je sais pas, totalitarismes religieux ou autres, et ben c'est les distraits qui sont un petit peu moins fourvoyés que les autres, et on peut se demander si notre régime économique est justement pas, y compris à travers des choses comme certaines utilisations de la mindfulness et autres, une façon de nous rendre attentifs à des choses qui sont socialement valorisées, mais qui sont pas forcément dans notre intérêt, de notre beauté, de nos expériences vitales à nous-mêmes, individuellement ou collectivement.
Je partage entièrement cet avis, parce qu'il y a sur les théories par rapport aux troubles déficit d'attention et hyperactivité, sur les avantages d'être distrait, il y a toute une littérature là-dessus, dans le sens que probablement d'être rêveur est aussi une capacité de générer des idées que les autres n'ont pas. Donc de pouvoir être distrait, de capter des choses que les autres ne captent pas parce qu'ils sont hyper focalisés sur ce que le prof dit ou sur ce qu'ils sont en train de faire, peut être un avantage, mais aussi un désavantage, parce que d'être rêveur, possiblement, me rend plus créatif. Donc c'est pas exclu qu'on... Enfin, moi j'en suis certain, c'est qu'il nous faut les rêveurs en société.
Éloge de la rêverie, éloge de la distraction, puis peut-être, juste avant de se quitter, encore une éloge de l'attention, mais je vais citer Simone Weil, que vous citez dans votre livre, Yves Citon, et qui dit « Jamais, en aucun cas, aucun effort d'attention véritable n'est perdu. Toutes les fois qu'un être humain accomplit un effort d'attention avec le seul désir de devenir plus apte à saisir la vérité, il acquiert cette aptitude plus grande, même si son effort n'a produit aucun fruit visible.
» Oui, enfin moi voilà, c'est une belle citation. Moi j'avais envie, je sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'avais juste envie de recadrer tout ce qu'on a dit de nouveau dans ce dont on était parti aussi, qui sont les smartphones. Il me semble qu'il est important, lorsqu'on pense à tout ça, de se dire que ce qu'il y a de nouveau dans les smartphones, c'est beaucoup moins ce qui se passe entre l'écran et nos yeux ou nos oreilles, ce qu'il y a devant l'écran, parce que de nouveau, ça fait longtemps qu'on essaye d'attirer l'attention des autres. Par contre, ce qu'il y a de très nouveau, c'est ce qui se passe derrière, entre les ordinateurs, les smartphones et les serveurs auxquels ils sont connectés, et les plateformes qui collectent nos données. Et là, la vraie nouveauté, il me semble, du 21e siècle, c'est le fait que notre attention laisse des traces attentionnelles, que chaque fois qu'on nous donne des données, on nous prend des prises sur nos comportements attentionnels et qu'on utilise ces prises sur nos comportements attentionnels pour des effets d'emprise, pour nous donner ce que nous attendons. Et il me semble que le principe, s'il y a une crise de l'attention aujourd'hui, c'est dans le rapport entre attention et attente, à savoir qu'on a des publicitaires, qu'on a des gens à travers Google et à travers Facebook qui peuvent très très savoir très très finement, en temps réel, quelles sont nos attentes et qui peuvent donner ce que nous attendons. Et donc, qui peuvent... qui risque en tout cas de diminuer la rêvasserie ou les effets de surprise qui sont absolument nécessaires à l'adaptation de nos conditions sociales. Et là, pour le coup, il y a une très grande crise qui est en train de se mettre en place. Mais de nouveau, il faut regarder derrière les écrans plutôt que ce qu'il y a dessus.
From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Past and get dressed before your father hears us, before, oh. A song, a song to keep us warm.
Radiohead pour se quitter en douceur. Merci beaucoup Yves Citon d'avoir été en duplex de Paris dans les Échos de Vacarme ce matin, professeur de littérature et médias à l'Université de Paris 8. Votre prochain livre, parce que celui dont nous avons parlé aujourd'hui, Pour une écologie de l'attention, date de 2014, est-ce qu'il continuera de s'intéresser à l'attention ?
Alors, il y en a un en 2017 qui s'appelait Médiarchie, qui était pour regarder de l'autre côté, justement. Qu'est-ce qui nourrit nos attentions aujourd'hui, les médias, et comment penser les médias? Mais je voulais vous remercier d'avoir passé du Tom York de Radiohead, qui est un des plus grands théoriciens et praticiens de l'attention aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous, Yves Citon, Tom York de Radiohead, évidemment. Nader Perrou, merci à vous d'avoir été en duplex de Genève ce matin dans les Échos de Vacarme. Vous êtes professeur médecin adjoint agrégé aux hôpitaux universitaires de Genève et responsable d'une unité prenant en charge des patients adultes souffrant de troubles déficits d'attention, hyperactivité.
Merci beaucoup à vous.
Les Échos de Vacarme, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Il y avait Francine Delcozo, Rodolphe Beauchaud, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Stéphanie Jovanovic, Samuel Morier-Genoux, Cyril Dolmer, Bénédicte Banet et Dominique Stalder. On se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle semaine de reportages au cœur des sociétés d'étudiants, de Zofingue à Helvetia, en passant par Belles Lettres, Adelphia. Qu'est-ce qui plaît encore aux jeunes dans ces rassemblements dont certains peuvent paraître un peu désuets? Après les informations, ne manquez pas Travelling. C'est l'émission cinéma de Catherine Fatbert. Le film du jour, c'est Cléopâtre, un film de Joseph Mankiewicz. C'est sa date de 1963. Très belle journée. Il est 10h sur la première.